Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI, les 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. À la une, la présence russe remise en cause en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. La gestion du port de Tartous en Méditerranée est retirée à une société russe. Moscou s'inquiète pour sa base navale militaire, toujours à Tartous. Également au sommaire de ce journal, la visite en Haïti du président colombien, près de 4 ans après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, par un commando composé de Colombiens. On parlera aussi de la journée mondiale de la solitude et c'est un phénomène particulièrement marqué au Japon où près d'un habitant sur trois a plus de 65 ans. Dans 10 minutes, après ce journal, vous retrouverez 8 milliards de voisins. C'est un autre signe que quelque chose a changé en Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. La Russie, le protecteur du président syrien, de l'ancien président syrien, n'est plus vraiment chez elle. Le nouveau pouvoir à Damas vient de rompre le contrat octroyé il y a 5 ans à une société russe pour la gestion du port de Tartous sur la Méditerranée. Un bail à l'origine qui était prévu pour 50 ans. Tartous, c'est là aussi où l'armée russe dispose d'une base pour ses navires de guerre, qui pourraient donc peut-être subir le même sort. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoix.
Pour Alexei Chepa, membre de la commission des affaires internationales de la Douma, cette décision du gouvernement intérimaire syrien s'explique par les difficultés éprouvées par Moscou à remplir ses engagements. En plus de la gestion, de l'expansion et de l'exploitation du port de Tartous, l'accord prévoyait des investissements à hauteur de 500 millions de dollars sur 4 ans. Avec le conflit en Ukraine, on comprend que les priorités du pouvoir russe aient quelque peu évolué, mais pour le député, cela ne remet pas en cause la présence militaire russe qui dépend, elle, d'un autre accord signé en 2017. S'il n'est pas encore question de priver la Russie du contrôle de ses installations militaires en Méditerranée, Moscou reste fébrile. À en croire le ministre syrien de la Défense, des négociations sont en cours sur l'avenir des bases militaires russes sur le territoire syrien, mais pour l'instant, aucune solution définitive n'a été trouvée. Moscou joue gros et le nouveau pouvoir syrien le sait. La Russie cherche à conserver des installations de maintenance et de ravitaillement pour sa flotte en Méditerranée, une présence que Damas n'hésitera pas à monnayer compte tenu des finances exsangues de l'État syrien. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
La Russie vient de réagir aux dernières déclarations de Donald Trump sur la guerre en Ukraine. Le nouveau président des États-Unis menace Moscou de sanctions économiques si la Russie ne trouve pas un accord avec l'Ukraine. Et bien pour le Kremlin, il n'y a rien de nouveau dans ces déclarations. Moscou un appel à un dialogue sur un pied d'égalité avec Washington. Donald Trump à la une de l'actualité depuis son investiture lundi. Donald Trump, il s'exprimera aujourd'hui par visioconférence au Forum économique mondial de Davos. Alors que ces menaces de guerre commerciale avec la Chine, le Canada ou encore l'Union européenne vont à l'encontre de la philosophie très libérale à Davos. Sur l'immigration, Donald Trump a annoncé l'envoi de 1500 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique. Il a enfin reconnu Edmundo González Urrutia, président légitime du Venezuela, pourtant le perdant officiel de la présidentielle face à Nicolas Maduro. En Haïti, la visite du président colombien Gustavo Petrel, près de 4 ans après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, tué par un commando composé de Colombiens, visite évidemment très attendue sur place à Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Tour de blanc vêtu, Gustavo Petro, attendu initialement dans la matinée, a atterri à l'aérodrome de Jacmel avec plus de 6 heures de retard. Le chef d'État colombien a été accueilli par des membres du conseil présidentiel de transition, dont Leslie Voltaire. Les deux délégations se sont ensuite dirigées vers l'hôtel Manoir Adriana, où s'est tenu le conseil des ministres binational. Les deux pays se sont engagés à collaborer dans le domaine de l'agriculture pour renforcer la résilience face au climat, de la culture, afin de valoriser leur patrimoine commun, de la sécurité pour lutter contre les trafics et de l'éducation pour préparer les jeunes au marché du travail. Dans son discours, le chef d'État colombien a présenté ses excuses au peuple haïtien pour l'implication de soldats colombiens dans la mort de l'ancien président Jovenel Moïse.
Je vous demande pardon parce qu'ici sont arrivés des Colombiens blancs pour assassiner le président d'Haïti. au nom de tout le peuple colombien. Je vous dis que nous ne croyons pas en cette mort propagée par ces Colombiens. Nous croyons en la vie.
Gustavo Petro a également lancé un vibrant appel à l'unité et à la solidarité entre les peuples latino-américains. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Le retour d'un régime civil plutôt que prévu au Gabon après le coup d'État qui avait renversé Ali Bongo en août 2023, tard hier soir à Libreville, à l'issue du Conseil des ministres, a été annoncée la date de l'élection présidentielle. Ce sera le 12 avril prochain, c'est-à-dire 4 mois avant la date initialement prévue par le général Brice Oligui Nguema. La chanteuse malienne Rokia Traoré retrouve la liberté après 7 mois passés en prison suite à sa condamnation pour non-représentation d'enfants, un conflit familial avec le père de sa fille de 9 ans. Un tribunal de Bruxelles en Belgique a décidé de la libérer parce qu'un accord a pu être trouvé entre Rokia Traoré et son ex-mari à Bruxelles, Pierre Ménazé.
Rokia Traoré n'était pas présente à cette 3e audience, c'est donc en prison qu'elle a appris la nouvelle de sa libération. Avec le père de sa fille, Yann Gossens, les avocats ont réussi à ficeler un accord qui a été estimé de bon augure par la juge. Celle-ci a donc ordonné que Rokia Traoré soit libérée de la prison bruxelloise de Haren, où elle est incarcérée depuis le 29 novembre. Maître Dimitri Debeco, avocat de Rokia Traoré.
Ce processus-là, un processus de médiation qui a duré pendant 2 semaines, a abouti à un accord qui est évidemment confidentiel, mais qui porte sur l'avenir de cet enfant. Nous avons pu exposer cela au tribunal qui, sur cette base-là, a voulu donner sa chance à cet accord et donc permettre à la maman avant tout de retrouver la liberté pour que maintenant cet accord puisse se concrétiser. En réalité, la condamnation par défaut à 2 ans d'emprisonnement a été annulée aujourd'hui puisque le tribunal a reçu l'opposition de Madame Traoré à cela. Et donc aujourd'hui, Madame Traoré retrouve la liberté sans condition mais en devant encore être rejugée.
Les audiences pour valider devant un juge l'accord sur la garde de l'enfant auront lieu fin juin et ultérieurement aura lieu une autre audience liée à la non-représentation d'enfants qui avait valu 2 ans de prison à la chanteuse malienne, mais de l'avis même des avocats du père de l'enfant, c'est une audience, je cite, pour la forme. Il semble donc y avoir peu de chances que Rokia Traoré soit condamné. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
RFI à Bruxelles et à Paris, il est 11h07, 200 écoles fermées aujourd'hui à Bangkok en Thaïlande à cause d'un niveau très élevé de pollution de l'air. Le gouvernement appelle aussi les millions d'habitants de Bangkok à faire du télétravail aujourd'hui. En Thaïlande encore, le drapeau arc-en-ciel flotte avec fierté, déclaration de la première ministre alors qu'est entrée en vigueur aujourd'hui la loi qui autorise le mariage pour tous, le mariage entre personnes du même sexe. On va maintenant au Japon pour parler de la journée mondiale des solitudes. C'est aujourd'hui, comme chaque 23 janvier. Au Japon, on parle de la journée de la lutte contre l'isolement érigée en grande cause nationale. Elle touche l'isolement et la solitude, elle touche particulièrement les personnes âgées. Aucun pays que le Japon ne compte autant de seniors dans sa population. À Tokyo, Bruno Duval.
Au Japon, chaque année, des milliers de seniors vivant seuls meurent à leur domicile et personne ne s'en rend compte. Leur corps n'est découvert que bien plus tard par la police, à la suite de plaintes de leurs voisins en raison des odeurs. Un peu partout dans le pays, on a donc créé des équipes de mimawari, d'anges gardiens, dirait-on en français. Il s'agit de bénévoles qui, chaque jour, envoient un SMS à un senior isolé de leur quartier pour s'assurer que tout va bien. Ce qu'explique la responsable d'une association de ce type, puis un septuagénaire veuf et sans enfant qui a de gros soucis de santé et a donc souscrit à un tel service.
Énormément de bénévoles prennent part à ce projet communautaire, des jeunes notamment. Être attentif aux autres, ne pas vivre que pour soi, visiblement ça parle à beaucoup de gens.
Autant je me suis fait l'idée de mourir bientôt, autant j'avais la hantise que, vu mon isolement, mon cadavre pourrisse chez moi pendant des semaines. Mais là, maintenant, je suis apaisé. Grâce à ce service, le jour venu, tout se passera bien.
De plus en plus aussi se développent les cohabitations intergénérationnelles entre des seniors isolés et des jeunes à la recherche d'un logement bon marché à qui ils louent à prix modique une chambre de leur appartement. Pour autant, malgré ces initiatives, le fléau de la solitude du troisième âge reste entier. Les sondages indiquent que 30% des aînés isolés ne parlent à quelqu'un qu'une fois tous les 15 jours. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Un résultat de foot avant de terminer ce journal et la victoire du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des Champions. 4-2 face à Manchester City, 11h10 à Paris dans un instant sur RFI. 8 milliards de voisins.